Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Méprisé, négligé, ignoré à certaines époques, Erik Satie, né en 1866, est toujours bien présent au XXIe siècle, joué, admiré et reconnu par beaucoup comme l'un des précurseurs de la musique répétitive. En 1975, 50 ans après sa disparition, les après-midi de France Culture saluaient Erik Satie. Mais qui était le compositeur des gymnopédies et des gnossiennes? On sait les lorgnons, la barbiche, le chapeau melon, on sait l'humour, les excentricités vestimentaires, les parapluies, la pauvreté de la chambre d'Arcueil, Dada et les surréalistes, parade et relâche, l'ésotérisme et le parti communiste. Mais comment comprendre l'œuvre de Satie? Comment la replacer dans son temps? Comment expliquer l'apparition de cette musique le plus souvent minimaliste dans une époque musicale qui ne l'était guère? C'était ce que proposait de faire cette émission en forme d'hommage à laquelle participaient Maurice Ohana, la musicologue Anne Ray, Pierre Bertin, Georges Auric, Henri Sauguet et Jean Viennère.
Mai 1866, naissance d'Erik Alfred Leslie Satie à Honfleur. 5 ans, la guerre. 12 ans, révolte, piano, Paris. 26 ans, salon Rose-Croix, art gothique. 28 ans, l'affaire Dreyfus. 34 ans, Péléas, Debussy. 36 ans, banlieue, Tour d'Ivoire, Arcueil. Paris, les ballets russes. 1905, 41 ans. Études, Schola Cantorum, élève de Vincent d'Indy, Albert Roussel. 46 ans, Picasso, Braque, papier collé. 50 ans, Dada à Paris, Freud à Vienne. 52 ans, mort de Debussy. 58 ans, manifeste surréaliste. 59 ans, première exposition surréaliste. 1er juillet 1925, mort à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, à 59 ans, d'Erik Satie.
Voilà, eh bien ce sont évidemment des dates et des événements qui ont une très grande importance dans la vie d'Erik Satie, vous avez pu le constater. Satie qui explique son temps en partie, son temps, ce temps qui explique aussi Satie. Et nous allons revenir tout au long de ce dossier sur des points importants de la vie de Satie, pour essayer de voir dans quelle mesure il a peut-être provoqué un certain nombre d'événements et dans quelle mesure il a été terriblement influencé par d'autres événements pour arriver à une sorte de portrait presque le plus proche possible de la réalité, dirons-nous, d'Erik Satie. Je crois que la meilleure chose à faire au début, c'est d'écouter Erik Satie et d'écouter surtout le portrait qu'il a dressé, qu'il a brossé de lui-même. C'est à partir de ce portrait que nous pourrons essayer de dégager un certain nombre de vérités. Et puis, bien sûr, il y aura l'actualité de Satie. Non seulement Erik Satie sorti du purgatoire par la grâce peut-être d'un festival, en tout cas par la grâce du disque qui l'a terriblement gâté, et nous essaierons de vous donner les grands moments de cette discographie de Satie tout à l'heure. Et puis, nous avons intitulé un moment de ce dossier, le cloître et le salon, car si nous parlions tout à l'heure de dualité d'Erik Satie, je crois qu'on peut la localiser, cette dualité, aussi bien dans, dans le cloître, qui n'était pas un vrai cloître, mais qui était une sorte de petit appartement minuscule où personne n'a jamais pénétré jusqu'à la mort de Satie. Lui seul y avait droit. Et puis le salon, qui a joué aussi un rôle très important. Alors on essaiera de voir si c'est le cloître ou cette petite tour d'ivoire, ou si c'est plutôt le salon qui ont servi de révélateur à Erik Satie. Alors pour commencer, écoutons-le s'auto-portraitiser.
Je grille d'envie de vous donner ici mon signalement. Énumération de mes particularités physiques, celles dont je puis honnêtement parler, évidemment. Cheveux et sourcils châtain foncé. Yeux gris, pommelé probablement. Front couvert. Nez long. Bouche moyenne. Menton large. Visage ovale. Taille 1m67 cm. Je regrette de ne pas vous montrer mes empreintes digitales de doigts. Oui, je ne les ai pas sur moi.
Pierre-Yves Leprince, vous étiez lecteur de cet autoportrait et vous avez également recueilli un document très très émouvant à propos de Satie.
Oui, il existe encore un recueil des personnes qui ont connu Satie. Ce sont des personnes qui étaient des enfants, mais qui ont beaucoup vécu avec Satie, puisque Satie lui-même a adoré les enfants et s'est occupé, nous le verrons plus tard, d'enfants à Arcueil. Il y a plusieurs personnes, et d'abord, il y a le fils d'un des confrères de Satie à la mairie d'Arcueil. Il y a M. Vessière qui nous fait lui aussi le portrait d'un Satie véridique.
Et nous dirons bien entendu pourquoi Arcueil plus tard.
Le visage un petit peu poupin, toujours souriant, malicieux, et la barbe blond-roux. C'est sa petite barbiche un petit peu broussailleuse, que tout le monde connaît d'ailleurs, puisque les photos, les dessins de lui sont nombreux, vraiment. Et vraiment, les dessins représentent bien le type de Satie. Ses lorgnons ne quittaient jamais, et il ne voyait pas clair sans ses lorgnons. À ce moment-là, on disait par exemple qu'il avait un petit peu le type anglais, qui était d'ailleurs son pays d'origine. Et souvent, il était habillé à la manière anglaise. Quand il était dans ses moments un petit peu fastes, il était toujours habillé correctement. Je me le vois à un moment donné avec un grand par-dessus très large, très ample. Dans Arcueil, c'était pas commun.
Un chapeau ?
Un chapeau, toujours, son chapeau melon.
Des cols,
oui. Des cols glacés. Ah ben des cols, d'ailleurs, quand il est décédé, on a trouvé une montagne de cols dans sa chambre.
Sa voix, est-ce que vous vous rappelez sa voix quand il parlait ?
Non, c'est une voix douce, et puis son rire était extraordinaire. Quand il avait dit un bon mot, il riait lui-même de ce qu'il venait de dire, et son rire partait en cascade.
Voilà, nous avons déjà esquissé un portrait du personnage, mais je voudrais dire tout de suite que, en fait, ce n'est pas exactement Erik Satie qui sera la vedette de ce dossier, car je le disais au début de cet après-midi, l'anniversaire de sa mort que nous célébrons aujourd'hui, puisqu'il est mort, puisque nous célébrons le 50e anniversaire de sa mort, exactement aujourd'hui, n'est finalement qu'un prétexte à évoquer ce que fut surtout Erik Satie à l'intérieur de son temps. Et c'est pourquoi tout à l'heure, Pierre-Yves Leprince, ces dates que vous avez données, ces dates et ces événements, nous seront certainement très précieuses pour mieux l'approcher et mieux comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est-à-dire la vie d'un personnage entre ces deux siècles qui ont été si déterminants pour notre civilisation. J'ajoute que nos invités, je rappelle leur nom, ils ne sont pas encore arrivés, ils vont venir tout à l'heure, c'est Maurice Ohana, le compositeur Maurice Ohana, Jean Vienner, que l'on ne présente plus bien entendu, et Anne Rey qui a écrit l'ouvrage le plus récent et peut-être même le plus complet sur Erik Satie. Brigitte Massin, elle, traitera du musicien Erik Satie et de bien autre chose d'ailleurs. Et puis, comme elle revient de Divonne, où une journée était consacrée à Satie hier, bon, je crois que nous pourrons parler très, très librement et très précisément peut-être de cette espèce de résurrection d'Erik Satie qui n'en aime pas une. Et nous essaierons, ce que nous faisons depuis le début d'ailleurs de cet après-midi, on a toujours l'impression d'utiliser un langage à la Satie plein de paradoxes, plein de...
Satie est forcément entièrement paradoxal. Vous l'avez dit, c'est un homme qui est plein de dualité. Il est à la fois effectivement dans les salons, c'est-à-dire que se passe-t-il ? Il obtient des commandes des salons. Il dit à des mamans : « Oh mon Dieu, Madame de Polignac m'a déjà payé pour une commande, je ne l'ai pas encore faite, allons-y vite, travaillons. » Et puis en même temps, il vit dans une chambre qui n'était pas tellement petite, mais qui était une chambre unique pendant des années, dans laquelle personne n'entrait. Il vit la pauvreté la plus totale. Il invite à Arcueil très gentiment beaucoup d'amis et des amis de la municipalité d'Arcueil qui n'ont rien à faire avec le monde, il les invite à prendre des pots dans les brasseries et lui-même est extrêmement pauvre, etc. C'est simplement un aspect de sa dualité. Commençons par celui-là. Et nous accueillons en ce moment
Maurice Ouane. Nous sommes un petit peu tristes parce que nous espérions que nous pourrions avoir un piano, que Maurice Ouane avait accepté de jouer des pièces de Satie au piano. Et nous avons essayé de le traquer depuis hier pour lui demander de l'enregistrer ce matin, et puis il avait mille autres choses à faire. Donc aujourd'hui,
nous entendrons sa voix d'or, à défaut de l'entendre jouer du piano. N'est-ce pas, Maurice ?
Je suis très flatté.
De toute manière, Maurice
introduction.
Aime bien parler de Satie. Surtout, il n'aime pas bien parler de Satie. Il aime Satie.
Il n'aime pas parler en général, d'ailleurs.
Non, mais il aime Satie. Et Dieu sait que c'est important, je pense, pour lui. Et que par conséquent, sur ce plan, il a beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre en tant que compositeur. On continue avec Maurice ?
Ah oui, bien sûr.
Ah, alors c'est parfait. Eh bien, Maurice Ouane, vous savez que beaucoup de compositeurs aujourd'hui et beaucoup de musiciens n'aiment pas beaucoup Satie ou prétendent que Satie n'est pas un extraordinaire musicien. Je pense que pour vous, il en est tout autrement. Et d'aussi loin que je vous connais, je connais l'estime que vous avez pour Satie, pour le musicien Satie, et j'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi.
Tout d'abord, une toute petite mise au point. Autour de la personnalité de Satie, qui est très difficile à cerner, d'abord parce que je crois qu'il se dérobait un peu, par pudeur ou timidité, je ne sais, il y a eu pas mal de controverses, et comme toujours dans le cas d'un musicien très original, qui échappe à beaucoup de définitions, les détracteurs ont été aussi passionnés, je crois, que ses partisans. Je crois pour ma part que Satie n'est ni aussi nul et que ce n'est pas le pauvre air en particulier que ses détracteurs ont voulu faire de lui, ni non plus le mage d'Arcueil extraordinaire devant qui devrait ou pourrait se prosterner des musiciens qu'il admire. Il est tout simplement une personnalité exceptionnelle, d'abord par le fait qu'il est fait une musique qu'il était seul à pouvoir faire, je crois, et qu'il a été d'ailleurs le seul à faire, à une époque par exemple où il y avait cette sorte de course aux armements de la technique orchestrale, de l'instrumentation. Lui s'est contenté d'un piano, parfois d'une voix, et il l'a fait absolument sans armes ni armure, si l'on peut dire. C'est cela qui constitue à mes yeux sa grande qualité, si authentique d'ailleurs que des musiciens comme Ravel, Debussy, même, je crois, d'autres, ne s'y sont pas trompés. Et dans La Belle et la Bête, de la suite de La Merloie, ou dans certaines pages de Debussy, je crois qu'on trouve la trace certaine de la personnalité de Satie.
On risque toujours d'être extrêmement pédant en ce qui concerne Satie, parce qu'on est toujours très tenté de faire des citations. Mais il y en a une qui particulièrement me semble digne d'être un peu commentée, c'est celle-ci. Je crois que c'est d'ailleurs Francis Poulenc qui disait que la musique de Satie est taillée dans une matière émue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous considérez que c'est une phrase comme ça, d'un musicien, une belle phrase, un assemblage de mots jolis, intéressants, ou est-ce que ça correspond véritablement à quelque
non,
chose,
ça correspond,
Marie-Soine ?
Une
matière émue.
Oui, une matière qui est essentiellement musicale et absolument n'est absolument pas frelatée, ni par le timbre, ni par la complication d'écriture. Elle se contente de moyens très simples, et elle cherche dans la perspective plutôt, dans la manière de placer les sons et les agrégats de sons et les accords, ou les harmonies, dirons-nous, c'est là qu'elle cherche son originalité, beaucoup plus que dans des effets qui sont forcément étonnants ou extraordinaires, mais qui masque souvent, comme on le voit, une certaine indigence de pensée. Chez lui, je crois, la pensée musicale était très sensible. Et c'était peut-être la seule extériorisation d'une sensibilité même absolument à vif. Il a dû certainement beaucoup souffrir de sa situation, de certaines incapacités intellectuelles ou techniques. Et dans sa musique, je crois que transparaît le meilleur de lui, qui était une profondeur sensible qui n'a pas vieilli avec les années. alors que beaucoup de ses contemporains sont inaudibles parce qu'ils sont, comme on dit, toute une époque. Évidemment, il y a l'humoriste Satie, mais ça, c'est un autre aspect de la question pour l'instant. Moi, je préfère m'en tenir à sa seule musique, parce que l'humour de Satie, qui est très remarquable, évidemment, il mériterait même de figurer dans certaines des revues actuelles d'avant-garde qui se prennent tellement au sérieux, n'est-ce pas? Comme par exemple de dire je découvris un si bémol, j'appelais mon domestique pour lui faire part de cette découverte. Il faudrait dire ça à beaucoup de musiciens.
Ça, c'est un peu le dandy, ça aussi.
Mais ce qui est amusant, c'est que dans votre position, Maurice Wanna, on a l'impression que vous renversez le jugement habituel. C'est-à-dire, pour vous, Satie est grand dans la mesure même où, justement, il n'a pas besoin d'adjuvant extérieur. C'est-à-dire, il n'a pas par exemple, Satie orchestre peu. Vous l'avez dit, et c'est vrai, c'est un fait. Souvent même, ses pièces sont orchestrées par d'autres. Et pour vous, ce qui peut apparaître aux yeux de certains comme un défaut, c'est justement la qualité. D'avoir eu recours à cette simplicité du moyen, moyen sonore.
C'est celle de Chopin aussi, après tout.
André raconte dans son livre comment Satie finit par se torturer pour épurer, disant finalement j'ai pu pouvoir parler, musicalement parlant. Est-ce que vous nous en
parlez? Il faut dire que André est arrivé parmi nous entre-temps, et nous la saluons ici, autour de notre table.
Quel est le procédé,
le processus?
Oui, c'est difficile à expliquer, mais c'est intéressant.
Le temps que là s'approche du micro. Voilà.
Je ne sais pas, je pense que pour certains musiciens, contrairement à d'autres, la nudité du matériau et la simplicité est une fin, évidemment. Et que c'est en particulier ce qui a séduit certains et ce qui a beaucoup déconcerté d'autres à l'époque où quand même on orchestrait bien. Je veux dire que penser que Satie fut un contemporain et un ami de Debussy et que ces deux êtres sont partis dans deux directions si opposées est tout à fait étonnant. Penser également que Satie en a eu quelques complexes personnels est aussi, je crois, évident.
Sûrement. Tout à l'heure, Maurice Wanna disait « Satie peut-être s'est heurté des difficultés intellectuelles en lui-même ». Vous avez dit ça.
Est-ce oui, ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs.
Ça me paraît
d'ailleurs.
Plutôt des difficultés caractérielles. Je sais bien qu'on ne va pas essayer d'expliquer Satie par sa vie, mais je trouve que sa vie est quand même exemplaire. C'est un personnage tellement mystérieux, vous l'avez dit au début, que je me demande si ce n'est pas plutôt des difficultés caractérielles, une difficulté immense à s'insérer justement dans une société. Alors il joue sur deux tableaux perpétuellement.
Il a joué
non,
avec le
moi,
mystère.
Non, moi je serais plutôt de l'avis de Maurice.
C'est intellectuel.
J'irais même presque plus loin si je voulais faire de la provocation. Et pourtant, je n'en ai pas envie parce que le Satie est un personnage si sérieux, finalement, qu'il faut l'aborder avec beaucoup de sérieux. Mais je me demande si il n'y a pas eu chez Satie quelque chose qui, en lui, a été barré vis-à-vis de la musique. Je veux dire par là, d'une manière très précise, par rapport à la forme. S'il n'y a pas eu une telle obsession, une telle angoisse de rejoindre la forme qu'il aurait rêvé d'atteindre ou qu'il avait conscience que peut-être il ne pouvait pas facilement atteindre, l'architecture en général d'une œuvre, si ça ne l'a pas un peu limité dans son imagination musicale, dans sa possibilité par exemple de développer, et si le meilleur, non pas le meilleur, mais le plus libéré de lui-même n'a pas été libéré quelquefois dans le langage. Il y a une chose qui me frappe, c'est que son écriture est terriblement stéréotypée. Je ne pense pas à l'écriture musicale, sa graphie, sa graphologie.
C'est extraordinaire.
Ses dessins sont terriblement secs, organisés, presque comme des dessins d'enfant qui veut vraiment trop bien faire.
L'écriture est une écriture
enfantine.
Et
je me demande si quelquefois en musique, il n'y a pas eu quelque chose qui voulait aussi trop bien faire. Et le seul endroit, le seul moyen dans lequel il n'est pas voulu ceci, c'est où il se soit plus laissé aller, c'est peut-être le langage. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que je crois, c'est Maurice dira que c'est sans doute pas sur ce plan-là que nous sommes d'accord, mais qu'il y a eu, je pense, des difficultés intellectuelles.
C'est certain, oui.
Excusez-moi, j'ai mal compris. Vous voulez dire qu'il s'est libéré dans le langage poétique, contrairement
oui,
à ce qu'il
oui,
a fait
je
dans
pense
le langage
que c'était,
musical.
Que c'était là peut-être le lieu où il était le plus spontanément libre.
Oui, il ne faut pas oublier que c'était une époque où on développait beaucoup en musique, et qu'à part Debussy, et un peu plus tard, Webern, tout le monde développait tant et plus. Or, dans les véritables œuvres réussies d'Éric Satie, comme les sonneries de la Rose-Croix ou les gymnopédies, il n'y a pas de développement. Il y a une sorte de juxtaposition, cette technique de vitrail que Debussy emploiera avec tant de bonheur, par exemple, dans les études plus tard, et qui est implicite, il l'a peut-être fait inconsciemment, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il a peut-être essayé de développer, il voyait qu'il n'en avait pas les moyens, ni techniques, ni intellectuels, je reviens encore là-dessus, car c'était un esprit qui avait...
Opposés,
oui, il avait un sens de l'essence, mais il n'avait pas un sens de l'exploitation ni de la spéculation intellectuelle. Et c'est pourquoi, un peu comme Gauguin, peut-être il a trouvé dans cette indigence la meilleure expression de lui-même, ce qui nous paraît aujourd'hui la meilleure expression de nous-mêmes, puisqu'il l'aurait faussé en essayant d'imiter les autres. Quoi, il a été un grand musicien.
Mais c'est dur de dire, quand même, d'un musicien qu'on vénère, il a trouvé dans son indigence.
Mais pas du tout. Gauguin aussi a trouvé dans son indigence le plus clair de ses réussites. Et beaucoup d'autres, Verlaine aussi. C'est-à-dire que lorsque Verlaine a reçu le choc de Rimbaud, il aurait pu essayer de faire du Rimbaud, ce qu'à l'heure actuelle on fait toujours. Lorsqu'un novateur secoue fortement les traditions d'un art, mais il est resté lui-même, sans quoi il est beaucoup plus grand que s'il avait suivi.
Bref, Satie, en effet, bon, attiré par une certaine forme d'épuration, nous commençons à le comprendre. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que nous entendions un disque très bientôt pour visualiser, si j'ose dire.
Oh, puis pour surtout pas qu'on nous accueille.
Oui, parler de musique, eh bien, cette musique.
Puisque Maurice Ohana devait nous jouer les sonneries de la Rose-Croix, on aurait peut-être pu entendre ça, mais ça ne m'a pas l'air d'être ce qui a été prévu.
À propos des sonneries de la Rose-Croix qu'on va entendre dans deux minutes,
oui,
chose à dire, c'est une époque où si vous avez parlé d'orchestration avec Debussy, parlons aussi du post-wagnérisme. Il est bien évident qu'après Wagner, l'orchestration est en effet ce que vous appelez tout à l'heure la grande artillerie, et qu'il y ait une réaction parfaitement normale. Que cette réaction soit douloureuse, difficile, normale aussi. Là, je me demande si c'est le problème de Satie que vous évoquez. C'est plutôt le problème d'une époque qui est en réaction avec des grandioses musiciens qui les ont un peu opprimés. J'ai l'impression que le problème de Satie est encore autre, André.
Mais
vous, votre avis, André, dites-le, vous avez envie de parler, vous êtes un peu étonné.
Je pense qu'on va écouter le disque.
Ah, elle se fuit, elle fuit.
On revient aux sonneries de la Rose-Croix, et ceci peut-être, si c'est le moment, nous amènera à poser d'autres problèmes, qui est peut-être l'ésotérisme aussi.
Bien sûr.
Bien. Alors maintenant, les sonneries de la Rose-Croix d'Éric Satie.
Thank you.
Cadré, vous vouliez reprendre sur ce que venait de dire Maurice Ouana. Vous étiez insatisfaite?
C'est beaucoup dire. Non, simplement, ça me choque un peu, c'est vrai, d'entendre parler d'incapacité intellectuelle en ce qui concerne Satie, puisque, après tout, tous ses contemporains ont été d'accord pour admettre que si Satie se forçait parfois à prendre des allures de clown et d'imbécile, en fait, il n'était pas du tout cela. Et tous ceux qui l'ont connu d'un peu près, je crois, se sont mis d'accord pour considérer qu'il était au contraire quelqu'un de très malin et d'intellectuellement très, très solide, je veux dire. Je voudrais reprendre un autre fait historique qui, cette fois, touche sa musique de plus près. Lorsque Satie a fait ses études à la Scola, il y a eu quand même un jugement objectif sur ses capacités musicales, qui était le jugement de Roussel. Et moi, j'ai retrouvé les petits manuscrits, les petits cahiers où Satie écrivait ses petits devoirs d'écriture. Et il y a une réflexion de Roussel que je crois je signale dans mon livre, mais qui est très intéressante, où Roussel dit « Ne vous forcez pas à la simplicité et ne vous forcez pas à l'humour et à l'ironie ». C'est-à-dire que le sentiment de Roussel était que Satie avait d'autres possibilités, mais qu'il ne les exprimait pas. Et on rejoint alors ce que disait, je crois, Brigitte Massin. C'est-à-dire, pourquoi ne les exprimait-il pas, en effet? Qu'est-ce qui le bloquait quelque part? Mais c'était, je ne pense pas du tout, une incapacité intellectuelle.
Quand je parle d'incapacité intellectuelle, je veux dire par là qu'il n'avait pas cette sorte de véritable technique d'écriture qui est une sorte d'instinct second chez certains compositeurs, et qui fait que la musique se tisse avec une complexité naturelle. Et quand un compositeur cherche dans ce sens-là, et que ce n'est pas sa vraie voix, il éprouve une sorte de sentiment d'impuissance. Et j'en parle en connaissance de cause, c'est que beaucoup d'entre nous ont ressenti lorsqu'ils se sont penchés sur la technique dodécaphonique, par exemple, ou autre, n'est-ce pas ? Et c'est précisément lorsqu'il n'y a pas assimilation instinctive et totale d'une technique que l'intellect intervient parfois chez le créateur pour surmonter des difficultés. Et là, il y a vraiment un sentiment de harassement, d'impuissance même. Je pense que Satie a dû l'éprouver à l'égard de ce qu'écrivaient ses contemporains, certains de ses contemporains qui étaient des contrapuntistes ou des harmonistes éprouvés. Mais très rapidement aussi, je pense, il a dû trouver une percée ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant chez Eric Satie. Mais je sens quand même chez lui, musicalement, une sorte de refus de ce qu'a été la technique d'écriture des gens qui, comme Ducas ou comme Dindy, ou même peut-être Ravel, si on examine le quatuor peut-être, qui était déjà trop complexe pour sa manière de penser et probablement hors de portée pour lui.
Je voudrais qu'on prenne un exemple, Maurice Ohana, André, si vous le voulez bien. Disons que vers 1902, Satie a 36 ans et c'est, non pas vers 1902, en 1902, car elle est importante, c'est Pélas et Mélisande de Debussy. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était très étonnant que ces deux compositeurs, finalement, se soit orienté vers des voix complètement différentes, ou du moins enfin, qu'on ne peut pas analyser côte à côte.
C'est
André, pardon, oui, justement, qui disait ça. Alors, essayons de voir, pour ne pas trop faire de musicologie, pour ne pas trop, si vous voulez, faire d'Éric Satie un personnage de musée, et d'évoquer les choses qui ne sont pas directement perceptibles par nos auditeurs, de voir dans quelle mesure Pélas et Mélisande a pu ou rompre quelque chose entre Satie et Debussy sur le plan musical, ou au contraire apporter quelque chose aux deux, surtout à Satie. Toujours pour expliquer un petit peu mieux le personnage, ses refus et ses acceptations aussi, ses choix, disons.
Oui, l'écriture de Pélas n'est pas simple si on examine la partition d'orchestre, je veux dire.
Moins qu'on puisse dire.
Elle est très ciselée, elle est pleine d'irisation, de subtilité qui sont absentes dans l'écriture de Satie. Par exemple, dans Ses Sonneries de la Rose-Croix ou dans d'autres œuvres, encore La Messe des Pauvres, par exemple, qui sont des œuvres qui contiennent une substance musicale très puissante et qu'on n'oublie pas. En ce moment, en particulier, je travaille un peu à La Messe des Pauvres que nous allons donner à Avignon. Et c'est simple d'apparence. En réalité, il y a beaucoup plus que cette simplicité dans cette musique. Par conséquent, ce sont les moyens qui différaient. Et puis, n'y a-t-il pas chez Debussy dans les préludes un retour vers, dans certains préludes, un retour vers cette transparence, vers cette espèce de simplicité première qui peut fort bien lui avoir été suggérée par Satie?
Oui, ce que je voudrais signaler quand même, c'est que Péléas et Mélisande, en dépit de toute l'admiration profonde qu'avait Satie pour l'œuvre, a été pour lui une occasion de souffrance et une occasion d'affirmer une fois de plus son manque de confiance en lui-même, parce qu'au fond, Debussy l'avait devancé dans la réussite de l'œuvre, considérée presque comme une œuvre parfaite. Et Satie, qui avait eu lui aussi l'idée d'écrire quelque chose sur un poème, un texte de Maeterlinck, au fond a été presque là aussi barré par la réussite de Debussy. Et si je ne me trompe, et si ma chronologie est exacte, il s'en est suivi pour Satie pendant quelques années un silence dans sa production, une angoisse profonde qu'il a du reste exprimée en disant « Et maintenant, c'est foutu, c'était pas ça le mot, il faut que je trouve autre chose ».
C'est là qu'il y a quand même aussi les problèmes caractériels. Excusez-moi de dire, je veux dire que c'est un homme qui s'est senti mal inséré dès la jeunesse. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas senti véritablement musicien. La preuve, c'est qu'à 41 ans, il dit « Bon, vous me faites des reproches, eh bien, je m'inscris dans une école. » Et il remplit ses petits devoirs.
Oui, ça, et d'autres musiciens l'ont fait.
Pas beaucoup.
Eh bien, vous citez Glinka, par exemple.
Bon, oui, d'accord.
Et qui était Schubert.
Bien. Mais enfin, ne disons pas que la plupart des musiciens refont leur attitude musicale à 41 ans. Vous savez bien que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a une très grande angoisse, effectivement. Heureusement, comme je rejoins Maurice Ohana, nous le savons tous, un artiste s'affronte ou à sa pléthore ou à une certaine pauvreté en lui. Si c'est un artiste, il en tirera des effets. Il tirera des effets immenses ou des effets de grande subtilité. Au fond, on peut tomber d'accord sur cette démarche. Je voudrais, pour appuyer ce que dit Brigitte Massin, donner verser une petite pièce, un petit document. C'est une conversation entre Debussy et Satie qui nous est transmise par Cocteau. Alors on peut croire que Cocteau, qui adorait Satie, était peut-être, mais Anne Rêve va nous départager, était peut-être favorable. Voici ce que disait, paraît-il, Satie à Debussy 2 ans avant Péléas, et même un peu plus avant. Il faudrait que l'orchestre ne grimace pas quand un personnage entre en scène. Regardez, est-ce que les arbres du décor grimacent ? Il faudrait faire un décor musical, créer un climat musical, où les personnages bougent et causent. Pas de couplet, pas de leitmotiv, se servir d'une certaine atmosphère Puvis de Chavannes. Alors là, passons sur Puvis de Chavannes. Anne Rey. Est-ce que c'est bien vrai qu'il aurait suggéré, quelques années avant Péléas, à Debussy, ce climat musical, cette parole dans un climat musical?
Je crois que ce n'est pas vrai, évidemment.
Pourquoi évidemment?
Parce que Cocteau est, le témoignage de Cocteau est absolument suspect de A jusqu'à Z, et je crois que personne ne peut y croire. Enfin, bien. Mais je crois que vous posez la question un peu... Je ne la poserai pas de cette façon. Je veux dire qu'il n'est pas question de penser que Satie aurait pu écrire Péléas, évidemment. Mais surtout, il n'est pas question de penser non plus que Péléas a plu à Satie. C'est-à-dire, Satie a détesté l'œuvre lorsqu'il l'a entendue en 1902. Donc, si elle correspondait à certaines de ses aspirations, d'une certaine façon... D'une autre, il considérait que cette richesse justement de l'œuvre était, je crois, complètement contraire à ce qu'il lui, à ce que Satie lui aimait en musique. Donc, si le témoignage faux, je crois, de Cocteau est intéressant en ce sens que a posteriori, il donne, je crois, l'opinion de Satie que Satie avait eu ou aurait voulu avoir, c'est-à-dire que Satie a vu dans Péléas quelque chose qui n'y était pas, mais qui devait être le résultat de certaines conversations qu'il avait eues avec Debussy. Et je crois que si Satie s'est senti tellement attaqué sur son terrain, c'est en effet dans le rôle de l'orchestre par rapport aux voix qui existent dans Péléas et qui était, je crois, la nouveauté, c'est-à-dire que l'orchestre...
Tout en forme... étant extrêmement subtil, reste quand même très discret.
Oui, et forme,
ce souhait profond
forme une espèce, en effet, de mosaïque décorative autour des voix. Et c'est cela, je crois, que souhaitait Satie. C'est en cela que Péléas lui a plu. Mais je voudrais revenir encore un peu plus haut dans la discussion. Je crois que si Debussy et Satie sont partis dans des voies si contraires, c'est que Satie ne cherchait pas du tout la même chose dans la musique que Debussy, et que Satie, tout de suite, a voulu trouver un système qui n'était pas le système scolaire, le système du
mais,
développement.
Mais ça me paraît très juste, c'est précisément. Il y était beaucoup plus poussé, je crois, par son instinct et le sens qu'il avait de ses limites, je crois, consciente ou inconsciente. Mais il savait bien que dans la direction de Debussy, il n'aurait pas pu avancer, même aller à mi-chemin de ce que Debussy allait faire. Donc il a cherché une autre percée.
C'est cela.
C'est ce que je disais.
Mais oui. L'autre percée n'est pas, à mon avis, enfin, instinctive, mais était super intellectuelle. Et c'était une direction par les chiffres, et par une écriture fondée sur des rapports de chiffres.
C'est entendu, on peut avoir recours à un stratagème de cet ordre lorsqu'on est un véritable créateur.
Je crois que stratagème est un bon mot, oui.
Oui, mais on ne s'y tient pas quand c'est simplement un flirt intellectuel. Vous savez, quand on passe toute une vie à écrire une musique aussi conjointe, aussi semblable, d'une unité de style aussi évidente que celle de Satie, ça veut dire finalement qu'on a trouvé la voie de son instinct.
Mm-hmm.
Ce n'était certainement pas l'homme des conversions, Satie. Il a eu beau faire du contrepoint à la Scola, il reste quand même... Il y a Socrate, évidemment, qui est une œuvre qui me laisse un peu perplexe, bien qu'elle ait des côtés admirables. Mais je pense qu'il a toujours été lui-même, et donc il avait trouvé la voie qui était la sienne, en optant pour cette simplicité minérale, presque. Car il y a dans les sonneries de la Rose-Croix, dans certains, même dans la messe des pauvres, un côté immense qui tient beaucoup plus à la nature et à la matière des choses qu'à une psychologie quelconque ou à une option intellectuelle.
Écoutez, je voudrais reciter encore une fois Francis Poulenc qui disait que l'œuvre de Satie était toujours en un perpétuel état de résurrection. Et bien, nous allons voir comment à d'Yvonne-les-Bains on réveille Satie.
Cette pièce a été véritablement créée en 1923 au théâtre Michel, dans un ensemble de pièces que j'avais appelé le théâtre bouffe. Oui, il y avait une pièce de Jean Cocteau, il y avait une pièce de Radiguère, Raymond Radiguère, il y avait une pièce de Max Jacob, et il y avait cette pièce d'Éric Satie. Et ce baron Méduse, qui est un vieux fou, en quelque sorte, un vieillard très riche, d'ailleurs, qui a un domestique, qui a une fille à marier. Et Satie aimait écrire, mais jamais il n'a écrit de pièces de théâtre. Là, mon Dieu, Satie a eu l'idée d'écrire, à l'instar de ses camarades du Chat Noir, une scénette qui n'avait jamais été jouée. Au fond, ce vieux baron Méduse, sans que Satie peut-être l'ait voulu, est un peu une figuration, un psychodrame, si vous voulez, de lui-même, Éric
Satie. Le baron Méduse,
oui,
ce serait Satie.
C'est ça. Il est très, d'ailleurs, à tel point que je ne peux pas jouer la pièce sans imiter Satie en parlant. Je l'imitais même à tel point, sans le savoir, qu'il s'est fâché avec moi à un moment donné parce qu'il a dit « Vous avez voulu... au théâtre, vous vous êtes moqué de moi. » Je dis « Comment donc, mon bon maître ? » ?»« Mais si, vous m'avez imité, je crois, enfin, je ne parle pas comme ça. » Je dis « Écoutez, mon bon maître, je vous demande pardon. » Mais... Et comme Henri Sauguet plus tard a fait la même chose, nous nous sommes toujours brouillés avec Satie à cause de cela. Au fond, Satie était un enfant. C'était un vieil enfant. Un vieux hautbois dormant, comme l'appelait Jean Cocteau.
Et ça avait été accueilli avec sérieux à
l'époque.
Oui,
mais non. Bon, non, quand le rideau s'est levé sur ce baron Méduse, dont j'avais fait un peu la tête, pas de Satie, je voulais pas me moquer de lui, mais j'avais tout de même une barbe comme lui, et je me suis mis à parler un peu comme lui. Je ne pouvais pas faire autrement que de jouer la pièce, parce que ce personnage est en effet tiré de l'originalité profonde de Satie.
Eh bien, c'était Pierre Bertin, et je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs ont reconnu sa voix, qui parlait ainsi hier à Divonne pour notre émission d'aujourd'hui. Pierre Bertin, qui était hier à Divonne au cours du festival, l'inspirateur, mais vraiment l'âme de la soirée anniversaire, puisque c'était le 30 juin et qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est l'anniversaire de la mort de Satie, de l'anniversaire consacré à Satie. Et cette fête, qui était une fête très joyeuse du reste, était une véritable fête de famille. Une fête de famille parce que le théâtre est petit.
Il manquait quelques membres de la famille.
On a déploré du reste leur absence. On a déploré que la famille se rétrécisse. Mais enfin, il y avait Pierre Bertin. Il y avait quand même Henri Sauguet. Il y avait Georges Auric. Il y avait René Clair.
Il y avait
Ni Poulenc ni Millau et pour cause. Et il y avait aussi Février qui a joué une bonne partie de la soirée. Pierre Bertin a commencer sur la scène, à parler de Satie, non pas ce que vous avez entendu, mais autre chose, avec une simplicité extraordinaire. De temps en temps, il se levait, il chantait, Février l'accompagnait, et puis, bien sûr, M. Jacques Février a joué un récital consacré non seulement à Satie, je dois dire, mais aussi aux amis de Satie, si bien que là, la réunion de famille et la fête étaient complètes. C'était la première partie de la soirée. En seconde partie de la soirée, il y avait le merveilleux film de René Clair, Entracte, qui était fait à propos du ballet Relâche, et pour servir d'entracte au ballet Relâche. Et surtout, il y avait la résurrection, si l'on peut dire, parce que je crois qu'il y a quand même longtemps que ça n'a pas été donné, le piège de Méduse, la pièce qui a été écrite par Satie et composé par Satie, dans lequel entre un certain nombre de personnages. Vous venez d'entendre Pierre Bertin en parler, le baron Méduse, vieux bonhomme, riche rentier, sa petite fille Frisette, Polycarpe son domestique avec lequel il a de gros ennuis, le singe articulé pour lequel est écrite la musique, le singe mécanique, pardon, et qui est un personnage très important et qui était ici un jeune danseur, et puis le fiancé de Frisette. Et tout ceci était mis en scène par Pierre Bertin, interprété par Pierre Bertin et un ensemble de jeunes comédiens. Eh bien, je vous propose que nous rejoignions Divonne une fois de plus et que nous ayons un tout petit aperçu de la fin de ce spectacle, de la manière dont il a été accueilli et quelques réflexions de certains des auditeurs. Et parmi eux, vous retrouverez Georges Auric et Henri Sauguet.
Madame, du piège de Méduse.
Ah, mais je l'ai trouvé très intéressant. C'était drôle, c'était insolite. Et ça nous reporte à une époque qui paraît lointaine.
Et toujours neuve,
oui, tout de même. Non, c'était très intéressant et c'était très bien interprété, surtout. Je crois que tout le monde a eu beaucoup de plaisir. C'était très bien. Et d'ailleurs, toute la soirée était... c'était une soirée qui n'était plus de notre époque, je crois. Vraiment.
Une soirée de souvenirs.
Peut-être, oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu malheureusement. Mais enfin, pour nous, c'était quelque chose d'insolite.
Que vous pensez, madame, du piège de Méduse?
Un peu long.
Un peu long, oui.
Le texte. Le texte charmant, mais un peu long.
Un peu long.
Oui. Merci.
Que pensez, monsieur, du piège de Méduse?
Du piège de Méduse, j'aurais bien aimé tomber dedans moi-même.
Maître Georges Auric, quel plaisir ça vous a fait de revoir le piège de Méduse?
Ah, ben, un immense plaisir, d'autant plus que j'ai assisté à la première représentation de cette pièce de Satie dans les salons de la famille de Roland Manuel. C'était Roland Manuel qui jouait le rôle de Méduse, la femme de Roland Manuel qui jouait le rôle de Frisette, et Satie jouait la partition au piano. Alors, c'était au mois de décembre 1913.
Et ça n'a pas vieilli pour vous?
Ah ben, c'est-à-dire que c'est moi qui ai vieilli.
Merci. Monsieur Sauguet, vous êtes souvent un baron Méduse, oui, et vous le serez peut-être encore.
Qu'est-ce que vous a fait l'effet de la reprise de ce soir?
Ah, mais c'est une comment dirais-je, une vision très particulière de Bertin. C'est le baron Bertin autant que le baron Méduse. Vous avez dit. Mais il y a une chose très réussie dans la soirée, c'était les danses du singe, qui étaient très 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 réussies. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois le singe danser aussi bien et avec aussi un aussi parfait en accord avec la musique. Ça, excellent, c'était très bien.
André, vous qui êtes spécialiste de l'œuvre, de l'étude de l'œuvre de Erik Satie, Le piège de Méduse, ce petit acte un peu de théâtre absurde écrit par Satie, ça représente quoi en réalité dans son œuvre ?
À l'époque où ça a été composé, je crois en que c'était 1913. Réellement une pochade amusante et qui est vraiment une œuvre de salon. Il s'est trouvé qu'après coup, on y a vu les premières traces chez Satie d'un esprit dadaïste et surréaliste, et que maintenant, c'est dans cette œuvre en particulier qu'on puise pour trouver traces chez Satie du côté non-sens et du côté perturbateur qu'on y a vu plus tard.
C'est une vu après Dada, le texte en somme, il est assez bénin. Il n'est pas encore très dadaïste. C'est plutôt des associations un peu faciles.
Oui, il y a un côté quand même.
C'est au-delà de l'humour. J'ai attrapé la berlue. Vous connaissez.
C'est au-delà de l'humour. C'est-à-dire, il y a quand même des non-sens assez intéressants d'ailleurs, et je pense assez révélateurs.
C'est un univers qu'il portait en lui de toute façon depuis toujours. Enfin, son ascendance anglaise ne doit pas être loin de ça. Et puis Honfleur et Alphonse Allais, il y a chez ces gens-là, dès le départ, quelque chose qui va donner un jour naissance au dadaïsme, au surréalisme. Je crois que là, les traces, même si c'est pour s'amuser, les traces sont là et sont importantes. Il faut les tenir au sérieux, même si elles sont
exactement, mais je me rappelle avoir vu, moi, cette œuvre représentée à la Scola par, d'ailleurs, Pierre Bertin également, et par des élèves de la Scola. C'est une œuvre que je trouve très inquiétante.
Moi, je trouve aussi. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est peut-être une des lignes dans lesquelles il aurait pu foncer dans la libération du langage.
Écoutez, moi, je vous propose de quitter Divonne maintenant, de revenir à Paris et de voir ce qui se passe lorsque l'on livre Erik Satie à l'imagination de l'homme de la rue.
Super. On ne peut parler d'Erik Satie qu'avec maladresse.
Je pense que c'était un original à fond, mais qui a créé une musique absolument unique. D'ailleurs, ce qui m'a toujours plu chez lui, c'est cet humour qu'il met dans les textes qui accompagnent sa musique. Embryon desséché, gnossienne, gymnopédie. Et, vous savez, il est de Honfleur. C'est la patrie d'un autre humoriste, Alphonse Allais. Je pense qu'ils devaient se donner la main d'ailleurs, parce que je crois qu'ils se sont plus ou moins connus. Et à part ça, qu'est-ce que je connais d'Erik Satie? Je sais, je crois qu'il a joué beaucoup du piano dans certains cabarets parisiens, et en particulier, je crois, au Chat Noir ou au Lapin Agile.
Si je vous dis morceau en forme de poire.
J'ai jamais réussi à avoir des poires en écoutant ce morceau. Non, non, jamais, vraiment jamais. Non. C'était peut-être pas la saison.
Fugue à tâtons.
Ça évoque pour moi quelque chose de... Oh là. C'est coquin, je sais pas, c'est...
Fugue à tâtons, moi je dirais que c'est un apprenti musicien qui n'a pas encore réussi à faire une bonne fugue. Alors, il tâtonne.
Danse maigre.
Ça, c'est pour les femmes qui veulent faire du régime.
Songe creux.
Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas d'imagination.
Chorale hypocrite.
Oh, ils doivent chanter faux ou bien alors ils le font exprès.
Le crabe sort.
Ah, ça c'est nostalgique ça. Parce que le crabe il sort quand il n'y a plus personne, quand tous les touristes sont partis. Et c'est là le meilleur moment, parce que c'est souvent au coucher de soleil.
Marche de grand escalier.
Je pense que ça me rappelle l'opéra, ça. Grand escalier de l'opéra.
Sonatine bureaucratique.
Ah oui, oui, je vois bien une valse de Stylo, évidemment, la valse dans la sonate. Si, ça peut être, un des mouvements de la sonate. Valse de Stylo et d'Encrier.
Comment imaginez-vous le musicien qui a écrit ces musiques ?
Un homme très pointu, très, très aigu, très maigre, grand, des longues mains. Un grand nez aussi. Bien, quoi. Très profond, très... très mystérieux aussi.
Curieux destin entre autres de celui d'Éric Satie qui se retrouve aujourd'hui à l'orgue électrique, qui n'aurait peut-être pas véritablement détesté ça. En tout cas, nous allons retrouver Éric Satie tout à l'heure, tout de suite après le premier bulletin d'information de 15h qui est présenté dans quelques instants par Jacques Rousseau.
Anna, vous allez nous quitter, votre conclusion sur Satie.
Je vais vous
votre Satie.
Que dire ? Je voudrais d'abord, avec tout le respect et la déférence, et le sentiment de type d'infériorité, comme dit Satie, avec lequel je me présente devant ce bouquet de musicologues éminentes, dire que... Nous tous, y compris les compositeurs, ceux qui sont furieux, ceux qui déversent leur fiel sur Satie ou au contraire ceux qui le portent nu, avons un peu l'air d'un chat qui voudrait mordre une grosse boule de verre quand nous parlons de Satie. Et je crois que c'est là la meilleure preuve qu'il s'agit de musique, d'une musique tellement musique que le langage lui est, par quelque manière, fondamentalement étranger. Et ça me fait un immense plaisir parce que nous en parlons aujourd'hui, et on en parlera encore, on l'écoutera encore, ce qui prouve que son œuvre est là et qu'on ne peut pas la supprimer. Ce qui, je crois, est la plus réconfortante conclusion que l'on puisse tirer de son passage sur cette terre et des traces merveilleuses qu'il y a laissées. Merveilleuses quant à moi.
Vous avez oublié, Maurice Ohana, parmi ceux qui méprisent Satie, ceux qui en disent beaucoup de mal, longuement, vous avez oublié ceux qui pratiquent l'indifférence. Je crois que ce sont les plus condamnables, non ? À l'égard de Satie.
Non, parce que pour accéder à Satie, il faut une certaine couleur de tempérament, et il y a des gens qui ne la possèdent pas. On peut être indifférent à de très grandes œuvres. Je n'ose pas citer celles auxquelles je suis irrémédiablement indifférent. Par conséquent, c'est très plausible aussi. Il y a dans cette indifférence, je crois, une marque de différence d'essence qui est très intéressante, au contraire.
En ce qui vous concerne, donc, aucune œuvre de Satie ne vous laisse indifférent. Peut-être Socrate vous laisse un peu froid. Ça pourrait être ça, votre
À peine, non, ne me laisse pas indifférent, parce que c'est très intéressant d'interroger. Oui, à peine un peu froid, mais je ne demande pas à être toujours ému, je peux être aussi intéressé. Et Socrate.
Ou amusé.
Oui, et Socrate est une chose qu'on interroge toujours avec une sorte de curiosité, très, très excitée, ça, il faut bien le dire.
Non, Brigitte, à vous.
Oui, je pense que si on interrogeait les vendeurs de musique ou les éditeurs de musique, on s'apercevrait que la cote de Satie est étrangement ascendante depuis quelques années. J'ai eu l'occasion d'avoir des détails, mais je ne les ai plus en tête à ce propos, il y a quelques années de cela, par un ami compositeur, et il paraît que c'est une courbe nettement, nettement ascendante, non pas seulement sur le plan du disque, mais sur le plan de la vente, comme on dit, musique papier, c'est-à-dire sur le plan des partitions. Et il y a donc de plus en plus de gens qui jouent des œuvres d'Éric Satie, pour leur plaisir, pas seulement des professionnels.
C'est aussi vrai d'autres musiciens de son époque. On est toujours surpris quand on apprend, par exemple, les droits d'auteur d'un homme comme Albert Roussel, qui n'est pas connu du très grand public. Et bien, Albert Roussel est joué dans le monde entier. Il est aimé, il est connu, justement, peut-être pas par des spécialistes, mais par des gens qui aiment véritablement cette époque et qui aiment ces musiciens qui ont cherché autre chose. À propos de ce que disait tout à l'heure Maurice Savoana, qui nous a quittés, il disait au fond que nous étions des chats essayant d'attraper une boule de verre. Cette boule de verre, c'est la musique, c'est la spécificité d'Éric Satie.
Et elle résiste.
C'est une musique qui résiste. Je pense à un mot de Satie. Satie dit « Je ne veux pas qu'on m'appelle un artiste, c'est grossier, c'est vulgaire, ça n'a pas de sens, je suis un musicien. » Et on va donc, puisque là je fais une citation qui tirait de lui, je crois que maintenant on va peut-être un peu parler de sa vie en précision, cette fameuse vie dont tout à l'heure Françoise Malétra disait qu'elle était entre deux choses, il est entre deux siècles, il est entre les salons dans lesquels il va, qui lui font des commandes, et aussi son ermitage d'Arcueil, cette chambre extrêmement misérable dans laquelle il rentre le soir. Personnage étrange, et peut-être qu'on pourrait tout de suite parler de cette époque de sa vie qui a été, disons, mystico-farfelu, et qui nous rappelle aussi un mot d'Alphonse Allais. Alphonse Allais disait, non pas Éric Satie, mais ésotérique Satie. Il y a une époque, Satie, donc, qui verse dans l'ésotérisme. On va demander à Anne-Rès ce qu'elle en pense, si c'est très sincère, mais rappelons un petit peu quelques dates. Satie s'est intéressé à Péladan, le fameux Sar Péladan, qui avait écrit quelques œuvres étonnantes, du genre Le Vice Suprême ou L'Androgyne, qui nous fait rêver maintenant, qui nous amuse beaucoup, mais il y a des œuvres beaucoup plus sérieuses. Il y a Flaubert. Satie était passionné non seulement par la Salammbô, mais par un texte qui était paru il y avait peu de temps, en 1874, La Tentation de Saint-Antoine, et alors qui est un texte beaucoup plus profond et qui mêle dans l'esprit de Flaubert et dans celui de Satie des origines très diverses, de religions diverses, qui mêlent les aspects les plus scintillants des religions du passé avec un mystère, avec aussi tous ces prétextes à salon. C'est le fameux salon, le premier salon rosicrucien, on en a quelques échos qui sont très amusants. Octave Mirbeau nous dit « J'ai vu beaucoup de vierges, de lys, de Christ cagneux, d'oiseaux aptères. » Si on sait qu'aptère veut dire sans ailes, ça fait des oiseaux assez mystérieux que des oiseaux sans ailes. « Des forêts mystiques, un art mystico-larviste ou mystico-vermicelle. » Alors donc, qu'est-ce que c'est que cette époque, Anne-Ray, dans laquelle tout d'un coup Satie s'insère, et puis après il dira mon Dieu, Péladan n'a jamais eu beaucoup d'importance pour lui, et il créera lui-même sa propre église, on en parlera tout à l'heure, dont il sera le seul représentant.
Oui, c'est l'une des premières tentatives de Satie pour s'intégrer dans un milieu dit artistique ou para-artistique à cette époque. C'était, comme vous le savez, l'époque du post-symbolisme, qui a été une époque particulièrement intéressante dans tous les arts, en particulier pour la littérature. Voilà Jean Vienner, dont je suis prise de grande timidité de parler de Satie tout d'un coup.
Devant M. Jean Vienner,
mais oui,
que nous accueillons. Mais Anne-Ray, continuez à nous définir l'entrée de Satie dans un monde. Il se trouve que c'est le monde mystico-ésotérique. Très bien, c'est une époque.
Oui, c'est une époque beaucoup plus intéressante qu'on ne le croit. Et en tout cas, je ne crois pas qu'il faille s'en moquer absolument, car c'est une époque qu'on est en train de redécouvrir, en tout cas en ce qui concerne la peinture, pour laquelle on commence tout d'un coup à avoir une grande considération. Satie, je crois, s'est inséré tout naturellement dans cette époque, car il faut bien considérer que c'est la seule fois où il sera en harmonie avec l'âge des gens qu'il côtoiera. C'est-à-dire, il est jeune à l'époque, et donc, tout naturellement, il fréquente les milieux bohèmes qui sont ceux de son âge. Donc, il va là où souffle l'esprit, même si cet esprit est un petit peu bizarre. Et je crois qu'il y a chez Satie, de toute façon, ça lui est resté jusqu'à la fin de sa vie, un goût du bizarre, de tout ce qui est marginal, de tout ce qui est antisocial, et que donc Péladan devait au moins le séduire. Et je ne sais pas si ça l'amusait. Je veux dire, je pense
ça devait le troubler aussi.
Ça l'a troublé, car mon idée, qui est une idée toute personnelle, est que Satie est restée profondément intéressée à l'ésotérisme jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, nous venons de toute façon d'entendre tout à l'heure un morceau de lui, qui est la sonnerie des Rose-Croix, qui est un morceau magnifique et très important, et que les musicologues éminents, que nous ne sommes peut-être pas, mais en tout cas nous en connaissons beaucoup, citent très souvent. Je pense à une chose aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la peinture, il se trouve qu'il me semble bien me rappeler que c'est Gustave Moreau qui a été bien un des rares à accueillir gentiment le jeune Eric Satie, encore jeune, quand il se présentait à l'Institut et que tout le monde riait. Il me semble que là aussi Satie a tout d'un coup senti qu'il y avait des gens dont il était fraternel, et Gustave Moreau, il est bien évident, représente probablement le meilleur de cette époque, car
oui,
c'est un mysticisme avec en plus un très grand peintre.
Et
il ne s'agit pas de
Cascagneux,
il s'agit d'autre chose.
C'est que par Gustave Moreau, la filiation se fait tout naturellement avec les surréalistes, puisque c'est un des grands peintres admirés par Breton.
Bien sûr.
Et vous avez annoncé l'arrivée de Jean Wiener, et je voudrais qu'on l'annonce une seconde fois, peut-être plus à la Satie encore.
Monsieur Wiener est annoncé parmi nous. Jean Wiener, votre Satie à vous, celui que vous avez connu.
Mon Satie à moi, c'était d'abord le Satie de tout le monde, plutôt que mon Satie à moi. Parlons, si vous voulez, deux minutes du musicien, après on parlera un peu de l'homme d'Arcueil. Pour moi, je sais que tout le monde débat absolument de mon avis. Je pense que c'est un très, 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 très grand musicien. Parce que j'ai peut-être une conception à moi de ce qu'est ou ce que je crois être un très grand musicien ou un très grand créateur. Je pense que le monsieur qui invente quelque chose de toute pièce, qu'on n'a jamais fait avant lui et qu'on ne fera probablement pas après, est un très, très, très grand créateur. De ce point de vue, je pense que Satie est un musicien tout à fait étonnant, qu'on jouera encore dans des centaines d'années, parce qu'il a apporté quelque chose que personne n'avait fait avant lui. Donc, j'ai une admiration totale pour Satie. D'abord, il a écrit un chef-d'œuvre que moi, je compare sans... sans honte aux, aux passions de Bach et aux, aux très très grandes choses, c'est Socrate, qui est une chose... Ou pour même tout dire, quand j'ai entendu, quand j'ai lu Socrate pour la première fois, ça m'a un peu étonné. Ça m'a même très étonné parce que j'avais une grande admiration pour la musique de Satie pour les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire pour son originalité formelle. Mais on en était quand même resté à des choses relativement courtes, quelquefois admirables, mais toujours très courtes. Et quand j'ai vu cette partition de je ne sais combien de dizaines de pages, et grave de la première note à la dernière, et d'une grandeur antique pour moi, j'en étais très, 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 très étonné. Donc pour moi, le musicien, ça ne fait pas l'ombre... Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est un très très grand musicien du fait qu'il a inventé une espèce de musique. Et il l'a inventé vraiment lui, parce qu'il a eu une vie de solitaire, une vie de pauvre, que tout ce qu'il a fabriqué, il l'a fabriqué dans des pièces sordides, où il dormait en général dans des lits sans drap, etc., etc., et que je trouve que c'est d'autant plus énorme d'avoir fait cet apport à la musique dans des conditions peu riches et peu confortables.
Oui, nous venions tout à l'heure de parler de ses débuts à Paris, de son rapport avec les salons rosicruciens, avec une période donc qui nous paraît relativement fin de siècle, belle époque et assez luxueuse. On sait qu'il a eu des commandes, des salons tout à l'heure. Pierre Bertin nous rappelait que de ses œuvres a été créé dans un salon, le piège de la Méduse. Et puis nous savons tous aussi que c'est l'ermite d'Arcueil. Il dit même dans une de ses lettres, le saint et le martyr d'Arcueil, bien qu'il n'ait jamais voulu se plaindre, il y a quand même ce mot chez lui. Il est à Arcueil, il est enfermé en effet dans une seule pièce, et c'est là qu'on peut penser aussi à Socrate. Socrate disait de lui-même, vers la fin de sa vie pour se défendre, Socrate disait « Je suis comme ces petites statuettes en terre cuite ridicules de Silène dans lesquelles on met des friandises. L'extérieur est une barbiche, tout à fait comme Socrate, il a la tête de Socrate. » Du reste, un œil brillant, une petite barbiche, et puis on ouvre et dedans, c'est le sucre, c'est le meilleur, c'est le miel. Il y a là vraiment un rapport tout en profondeur avec Socrate. C'est peut-être pour ça, du reste, que c'est enfin l'étape ultime de,
c'est très possible.
De Satie. C'est très, il a rencontré possible. Vraiment son personnage, Socrate le pauvre, Socrate celui qui enseigne aux enfants. Et Arcueil, c'est un peu ce qui se passait. Il avait réuni autour de lui, dans un patronage laïque, des enfants pour leur donner quelques petites bribes de musique. On peut peut-être écouter un reportage fait à Arcueil à ce sujet. Vous allez l'entendre avec nous.
Avec plaisir.
Éric Satie faisait partie du patronage de la Ligue d'Arcueil. Ce patronage était un organisme paramunicipal qui n'était même pas subventionné par la commune. Et Satie s'était proposé pour faire un petit peu d'éducation musicale. Et il aura appris quelques éléments de musique. Et il s'occupait de choses paramunicipales, mais il n'a jamais été conseiller municipal. Je crois d'ailleurs qu'il n'aurait pas accepté d'être élu. Ce n'était pas dans son tempérament. D'ailleurs, même ses actions au patronage municipal, elles étaient des fois un petit peu éclipses. À un moment donné, il était assez susceptible, et pour peu de choses, des fois, il disait à ses camarades, je m'en vais, au revoir messieurs.
Arcueil, le 15 janvier 1909. Éric Satie à M. Vessière, secrétaire du patronage laïque d'Arcueil. Cher M. Vessière, j'ai rempli hier pour la dernière fois mes devoirs de surveillant. Vous savez que mon désir le plus vif était que je continuasse ma petite collaboration à votre œuvre si sociale et si démocratique. Toutefois, certains procédés m'obligeant à me retirer, à abandonner déplaisamment, croyez-le, mon obscur service devenu trop ingrat, je vous envoie donc, par ce présent écrit, ma démission de membre honoraire. Vous serrant la main, Éric Satie.
Et il revenait quelques mois après ou quelques semaines, toujours gentil et affable. Je sais que certains enfants ont continué la musique après. Satie, si il venait à une heure où il y avait beaucoup d'enfants dans la rue, tous les enfants se précipitaient sur lui et il n'avait pas assez de mains pour serrer la main à tout le monde. Et c'est tous après lui, M. Satie, ils étaient heureux de le rencontrer. Il aimait beaucoup les enfants. Et d'ailleurs, quand il venait à la maison, on était toujours un petit peu choyé par lui. Il était content de nous voir. Sa vie un petit peu bohème, qui faisait qu'il n'avait pas de famille, et certainement, c'est une chose qui devait lui manquer. C'était surtout dans les organisations paramunicipales que Satie et mon père se rencontraient. Souvent, il lui est arrivé d'aller à des soirées auxquelles participait Satie. Alors, il nous racontait le déroulement de la soirée. Et souvent, au préalable, Satie invitait mon père dans une brasserie où Satie était toujours reçu comme un prince, parce que Satie était très généreux, il avait pourboire facile, et le personnel des brasseries était aux petits soins pour lui.
Voulez-vous, cher ami, venir prendre un punch ou un grog bien chaud? Je suis chez Tullard. Vous venez, point d'interrogation?
La sortie des réunions le soir, que ce soit du patronage ou du Parti Socialiste, Satie et mon père revenaient recocher ensemble. Et des fois, pendant une heure ou deux, ils s'accompagnaient l'un l'autre. Ça durait comme ça je ne sais combien de temps. Et une fois, entre autres, Satie faisait à mon père une théorie sur la musique et les sons. Et il s'amusait à taper sur les descentes de gouttière, ce qui n'était pas toujours du goût des gens de la rue Cauchy qui se mettaient des fois à la fenêtre et invectivaient les noctambules. Une fois, entre autres, une dame bien connue de la rue Cauchy à l'époque, Madame Moreau, leur a envoyé sur la tête le contenu d'un pot de chambre. Une chose typique de Satie, c'est surtout pendant la guerre de 14-18 que j'ai eu à le rencontrer. Très souvent, quand il y avait alerte, Satie venait à la maison. Alors, on l'entendait frapper à la porte. Et comme j'étais enfant à ce moment-là, c'est moi qui allais ouvrir la porte. Alors, il me glissait dans le tuyau d'oreille, « Je viens mourir avec vous. » Et le temps de l'alerte se passait. Satie racontait ses histoires humoristiques et nous passions notre temps à rire, pendant que d'autres étaient descendus dans les caves, étaient transis de peur.
Vous vous rappelez certaines de ces histoires?
Bah, écoutez, je vous raconterai par exemple l'histoire du chat qui boit de l'eau bouillante. Il était chez son ami Vincent Ispa et il racontait son histoire. Chez moi, j'ai un chat qui boit de l'eau bouillante. Et c'est forcé que ce soit lui. J'ai une lampe à alcool, je mets de l'eau bouillante sur ma lampe, et au bout d'une demi-heure, il n'y a plus d'eau, il n'y a que le chat dans la maison. Alors, tout le monde était là à regarder, et la mère de monsieur Vincent Ispa disait, mais écouillons, c'est l'eau qui s'est évaporée.
Vous reconnaissez, Jean Vienner, Satie, à cette histoire du chat qui boit l'eau bouillante?
Oui, bien sûr.
Et nous avons un second document qui vous concerne, Jean Vienner. Ah, oui. C'est une petite invitation bleue dont nous allons entendre le texte. Avec un encadré noir, baraque de la chimère, 143 boulevard Saint-Germain, 6e. Invitation, valable pour deux personnes. 7e et dernière séance d'avant-garde, samedi 16 juin 1923, à 16h15, très précise. Présentation de quatre jeunes musiciens, Henri Cliquet-Pleyel, Roger Desormières, Maxime Jacob, Henri Sauguet, par monsieur, en très gros, Éric Satie, avec le concours de mesdames, Jeanne Battery et Marcel Meyer. Et conclusion de Robert Aron, sommes-nous modernes? Avec ce billet, il sera perçu une somme uniforme de 5 francs par personne. Baraque de la chimère. Vous avez connu cette époque-là?
Ah, je pense bien. Vous savez, moi j'ai connu Satie exclusivement de 1920 à 1925, date de sa mort. Parce qu'avant avant que Cocteau et nous tous ayons sorti, si je puis dire, Eric Satie de l'ombre, j'en entendais beaucoup parler, mais je ne le connaissais pas. Alors que de 20 à 25, je peux dire qu'il n'y avait pas de jour, sinon en tout cas de semaine, où je ne le vois des heures et des heures, où je le rencontrais partout et où il venait chez moi voir mes enfants et boire des fines sans en avoir l'air.
Il y a une question que je voudrais vous poser, Jean Viennaire. Tous ceux qui parlent de Satie, ceux de ses amis, toute l'équipe des amis, quand ils parlent de Satie, disent volontiers « Satie était un enfant, Satie était un vieil enfant, ce que nous aimions en Satie, c'était son esprit d'enfance ». Et on a l'impression qu'il y a comme une immense nostalgie de l'enfance dans tout le groupe des amis autour de lui. Est-ce que vous le ressentez de la même manière ?
Je ne peux pas dire. Il était évidemment très simple, mais les enfants ne sont pas si simples que ça, enfin à mon idée. Et c'était un mélange extraordinaire d'enfantillage, si je puis dire, et au contraire, une espèce d'ironie quant aux choses de la vie qui allait très loin.
Bon, je trouve que c'est presque, je ne dirais pas une insulte, ce serait trop, mais en tout cas, amputer le personnage une partie de sa vérité que de s'attarder sur le mot enfant, vieil enfant.
Enfin, oh, pas je crois du qu'il tout, était, moi. Moi, ça ne me frappe pas du tout.
Tout le contraire, enfin. Il était aussi enfant, mais bon, comme tout humoriste, comme tout grand humoriste peut l'être. Enfin, je crois que c'est peut-être un peu facile de s'arrêter
c'est
là.
C'est un petit peu facile. Et puis, oui. il avait une autre chose qui était assez terrible, qui n'a jamais été terrible pour moi, mais qui a été pour beaucoup de ses, enfin, quelques-uns de ses amis, c'est qu'il avait des rages effroyables. Et il s'est brouillé à mort, et pour la vie, si je puis dire, avec des grands amis pour un mot qui ne lui plaisait pas.
Mais
il a mis dehors des gens qu'il aimait beaucoup et dont on croyait qu'il les estimait parfaitement. Il les a mis dehors pour un mot, pour une petite idée.
Un geste, oui.
Jeté comme ça un petit peu par hasard. Il était très très difficile, c'était un homme assez difficile, il était agréable, il était charmant parce qu'il avait un joli sourire et parce qu'il avait ce petit air malin et puis parce qu'il était très bien de sa personne, il était très très élégant, très tiré à quatre épingles, il faisait quand même très vieil écossais malgré qu'il vivait en général dans des endroits assez sordides. Il était très élégant.
Dans les contradictions de Satie, n'oublions pas celle-ci, les salons d'un côté, mais dans les salons, il montrait parfois sa carte du Parti Socialiste, et puis même vers la fin de sa vie, du Parti Communiste. Mmh. Autre aspect extrêmement mystérieux de Satie. Vous l'avez entendu parfois parler de cet aspect de son activité ?
Non, je dois dire que j'ai commencé une vie socialo-politique après Satie, depuis à peu près 32, 33, 34, quand j'étais critique du journal Ce Soir, c'est-à-dire du journal d'Aragon et de Jean-Richard Bloch. Mais on ne parlait absolument pas à cette époque-là, vous savez, ce qu'on appelle injustement les années folles, mais la belle époque. Qu'on appelle vraiment la belle époque. Moi, je trouve que socialement, ce n'était pas du tout une belle époque parce qu'il n'y en avait que pour les dames de l'avenue Henri Martin et puis les autres pouvaient se brosser en ce qui concerne les belles choses d'art, les belles choses sociales.
Brigitte Masson.
Et voilà.
À propos de la vie politique d'Éric Satie, je voudrais rappeler un mot que Pierre Bertin me rappelait hier. Un grand rêve de Satie, emmener en promenade les travailleurs dans le char de l'État.
C'est joli. Cette belle citation, c'est fort je crois beau, qu'on ça. Pourrait donner pour la dernière fois avant de quitter Satie, la parole à Satie, justement, Pierre-Yves Le Prince.
Oui, de l'humour. Dans un journal, il a collaboré à un journal local et c'était lui qui parfois était chargé de faire les petites annonces. Et il y a ceci : plus de chauves. Si tout le monde prend soin de faire partie de la nouvelle société d'épargne, l'Aqueduc, car avec votre gain, acheter une lotion capillaire. Voilà.
Éric Satie, cet homme entre deux siècles, je ne dis pas que nous le connaissons un petit peu mieux après l'heure et demie que nous venons de passer en sa compagnie, mais en tout cas, Jean Vianney nous a apporté au tout dernier moment encore deux aspects de Satie que nous ignorions, un Satie rageur, un Satie qui buvait des petites fines comme ça sans en avoir l'air chez Jean Vianney, tout en caressant la tête des blonds enfants de Jean Vianney.
Et un Satie dandy.
Et un Satie dandy, et beaucoup de choses encore. Nous avons une certaine nostalgie, nous aussi, d'Éric Satie, mais nous allons le quitter puisqu'il le faut maintenant. Je rappelle que nous étions donc en compagnie de Brigitte Bassin et Pierre-Yves Leprince qui avaient préparé ce dossier Satie. C'est un mot encore qui ne lui plairait pas beaucoup, du moins disons ces quelques moments sur Satie, en compagnie de Jean Vianney aussi, bien sûr, de Anne Rey qui a écrit le livre le plus récent sur Éric Satie, et bien sûr de Maurice Ohana.
C'était Satie entre deux siècles, un après-midi de France Culture proposé par Pierre-Yves Leprince et Brigitte Massin, diffusé la première fois le 1er juillet 1975 sur France Culture.